De base, j'avais un compte en commun avec mon mari, j'ai eu 3 enfants, j'ai été à la maison parce que je l'avais choisi, et après j'ai été à mon compte, donc j'ai eu mon compte perso, enfin perso, compte pro, et du coup effectivement ça donne une indépendance financière qui n'est pas négligeable.
Bonjour à toutes et à tous, quel soulagement de vous retrouver cet après-midi, de retrouver le micro et mon cher studio 611 après la mésaventure qui m'est arrivée la semaine dernière. Car oui, chères auditrices, chers auditeurs qui avaient eu la gentillesse de prendre de mes nouvelles, je peux vous le dire, le gay savoir a eu chaud aux fesses. Le gay savoir a d'ailleurs le pied dans le plâtre et il reste gay mais à béquille. L'histoire bête, en apparence en tout cas, une fourgonnette qui me coupe la route alors que je filais vers Radio France. Un simple accident de scooter qui aurait pu être banal s'il n'avait pas été commandité. En effet, 5 jours après l'attentat à la voiture Bélier dont j'ai été victime, il suffit de poser la fameuse question « À qui profite le crime ?» Eh bien, c'est assez simple. Hein. Un coup d'œil à l'organigramme de l'émission suffit de comprendre que s'il arrive malheur au producteur de Zoom Zoom Zen, c'est le producteur adjoint qui le remplace. Ça n'a d'ailleurs pas traîné dès jeudi soir, alors que votre serviteur était encore entre la vie et la mort, entre l'entorse et la fracture, ce qui revient au même, aux urgences de la Riboisière. Qui sautait sur l'occasion en se précipitant sur le micro ?
France Inter. Zoom Zoom Zen, Cyril Lacarrière.
Zoom Zoom Zen, le cœur qui freine mais l'ambition qui accélère, mon petit salaud. Il était 16h04 en ce jeudi 4 décembre, et alors même que l'hypothèse de l'amputation n'avait pas été formellement écartée par le corps médical, Cyril Lacarrière s'appropriait cette émission, ajoutant l'indécence à la trahison. Le mobile étant clair pour tous les officiers de la PJ du 9e arrondissement, l'enquête est ensuite allée très vite. L'analyse des caméras du boulevard Poissonnière permettra de retrouver la camionnette du diable, un véhicule loué dans l'agence Europcar de Ponto Combo par un certain Cyril Lacarrière, dont le permis était un fond grossier. La seule question qui reste en suspens est, a-t-il agi avec un ou une complice ? Selon certains témoins, au moment de foncer sur mon scooter, outre la voix de Lacarrière qui hurlait
« Drill, baby, drill !»
dépassant, et également entendu une autre voix dans la fourgonnette, on aurait dit un cochon qu'on égorge, dira un témoin. Ça faisait comme ça, monsieur ? Oh voilà, exactement ça, monsieur l'agent. Oh, merci pour votre déposition. Putain, Gilles, visiblement, la Marianoche est dans le coup. Zoom Zoom Zen, le pied dans le plâtre, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Pardonnez ce préambule un peu long, mais vu la gravité des événements survenus jeudi, je ne pouvais pas ne pas y revenir et surtout laisser dire n'importe quoi, car la rigueur factuelle est la pierre angulaire de Zoom Zoom Zen.
Chaque après-midi, par exemple, le plâtre que vous n'avez pas.
C'est vrai, j'ai pas un plâtre, mais bon, j'ai une attelle.
Vous pouvez pas, ne levez pas votre
pied. Vous m'avez fait tenter de lever le pied, Cyril. Vous êtes l'émission a failli s'arrêter.
Vous êtes quasiment évanoui, hein, désolé.
C'est vrai. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ces mots. Et aujourd'hui, alors que j'avais très envie de consacrer ce numéro à la notion de violence automobile, j'ai finalement choisi de zoomer sur une autre forme de violence qui, elle, frappe les femmes et au sein du couple, la violence économique. Quand, dans le couple, c'est l'homme qui a la main sur les comptes bancaires, quand parfois d'ailleurs la femme n'a même pas de compte bancaire à son nom et qu'elle se retrouve donc prisonnière économiquement du bon vouloir de son conjoint. Une oppression particulièrement redoutable car invisible de l'extérieur et, mauvaise nouvelle, une oppression en hausse dans notre société.
Vous allez, vous allez passer la main à gauche.
Là, normalement, il y avait une virgule, un fin indicatif. J'essaie de... Ah, t'avais déjà mis la virgule indicative,
oui.
Me dit la régie. Bon, très bien. Bon,
attendez, tout se dit en direct.
Je retrouve les bases de la présentation de cette émission. Bonjour, Mine Gounbaï.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, une structure qui rassemble 83 associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Vous avez publié fin novembre une enquête avec l'IFOP sur les violences économiques, l'une donc des 7 formes de violences conjugales. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, juste le temps de vous présenter ceux qu'avant mon accident, ce jeudi, je prenais encore un peu plus que des collègues, des amis. Mais j'ai découvert que dans le showbiz, quand vous étiez au sol, il n'y avait pas d'amis, juste des vautours faisant des ronds dans le ciel en criant... Manon Mariani, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Je vous signale que je n'ai pas eu mon jingle, moi, donc je n'ai rien à voir avec tout ça.
C'est vrai, vous l'avez vrai.
Oui.
C'était uniquement Cyril Lacarrière pendant toute l'émission.
Bien sûr.
Mon Dieu, il a bien
pendant
négocié.
Les 2 heures.
Il a bien négocié. Alors, ma chère Manon, oui. Qu'est-ce que vous avez dans votre pièce jointe aujourd'hui ?
Une mini-série. Elle traite justement des violences économiques qui sont peu montrées à l'écran. Et l'héroïne est jouée par l'une de mes actrices préférées du moment. Voilà, non, sachez-le.
Encore une devinette. Je ne l'ai pas cette fois. Face à vous, Minet, il est la seule personne sur qui je peux compter ici. Vendredi dernier, Alors que Manon et Cyril rafraîchissaient compulsivement leur page Google Actu avec les mots-clés « Mathieu Noël, mort, point d'interrogation », lui, il volait à mon secours en acceptant de récupérer les clés de mon scooter et de superviser son remorquage jusqu'à mon garage. Un acte de bravoure qui lui permettra de démarrer le quiz du jour avec 50 points d'avance sur Manon.
Ça va.
Quentin, non content d'avoir emmené mon scooter au garage, vous avez également trouvé le temps d'interroger les passants sur notre thème du jour, la violence économique dans le couple.
Même endroit d'ailleurs que le garage, hein, c'est donc avec les clients du garage BMW de Neuilly-sur-Seine que j'ai discuté.
Pas du tout là.
Je plaisante. Je suis pas allé voir des riches, il y en a assez autour de cette table. J'ai simplement discuté du fait que l'argent biaise... Qu'est-ce qu'il y a Cyril, vous n'êtes pas d'accord?
Des magots du mec.
Oui.
Vas-y, continuez. Oui, allez-y, vous gagnez le SMIC, continuez.
Merci. Du fait que l'argent biaise et tronque le couple, mais jusqu'à quel point l'argent le biaise? Vos réponses trouvées dans la rue, à côté du scooter de Mathieu Noël, dans la prochaine demi-heure.
Vraiment à côté, autour des débris du scooter. Aux alentours de 16h30, même si je ne dois pas trop rire, car ma clavicule a pris aussi, on jouera au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des chiffres les plus fous du gender gap, ce fossé qui sépare encore les femmes des hommes en 2025. Une preuve parmi tant d'autres de cet écart injuste, Quentin démarra donc le quiz avec 50 points bonus. C'est dégueulasse.
Je peux repartir sur la semaine?
Non, vous pouvez passer, non, uniquement pour aujourd'hui. Pas. Juste avant 17h, le contre-exemple à tout ce qu'on aura raconté avant, car chez les Leonardi, avec sa tournée des Zénith et ses 1 million de followers sur Insta, c'est elle qui tient les rênes de la bourse. Marine Leonardi viendra nous parler donc de ce qu'elle ne connaît pas. Après 17h, restez avec nous puisqu'on vous conseillera les bistrots les plus sympas du moment avec Gilles Pudlowski, dont le fameux guide sort justement la semaine prochaine. Mais d'abord, on va zoomer sur cette oppression invisible, je le disais, qui existe au sein du couple, les violences économiques qu'exercent souvent les hommes sur leurs compagnes. Mine Gunbay, je le disais, des violences économiques font partie des 7 formes de violences conjugales. Est-ce qu'on peut peut-être, en préambule de cette émission, rappeler les 6 autres formes de violences qui existent?
Absolument. Quand on parle de violences conjugales à la FNSF, on pense aux violences verbales, aux violences physiques, aux violences psychologiques, aux violences sexuelles, aux violences administratives, aux cyberviolences et également aux violences économiques.
Je les ai toutes comprises sauf une, la violence administrative. Est-ce qu'on peut donner un exemple?
Eh bien, c'est par exemple une femme qui est en renouvellement de séjour, par exemple, et qui se verrait soustraire ses papiers pour ne pas pouvoir faire le renouvellement par son conjoint, son partenaire, et qui ne pourrait pas, effectivement, entreprendre les démarches pour obtenir ses papiers.
Et peut-être aussi, tant que j'y suis, un mot de la violence sociale, quelle forme elle peut prendre?
Alors, quand vous dites violence sociale, en fait, les violences faites aux femmes, pour nous, sont systémiques. Ce sont tout type de violences, en fait. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les violences conjugales, économiques, s'inscrivent dans un continuum de ces violences-là.
Les témoins de l'accident disent qu'ils ont vu luire l'étincelle du vice dans ses yeux. Alors qu'il fonçait dans sa fourgonnette de location pour me faucher en pleine jeunesse, encouragé par les cris de sa complice, les Bonnie and Clyde de la Louse écoperont, on l'espère, d'une peine exemplaire. En attendant de moisir en prison, Cyril, faites votre devoir, racontez-nous les violences économiques, d'où ça sort.
Imaginez le huis clos d'un foyer, il y a les formes de violences que l'on connaît, les violences physiques, verbales, psychologiques, elles sont effroyables et punies par la loi. Et il y a les autres, plus insidieuses, le plus souvent invisibles, voire banalisées, c'est ce qu'on appelle les violences économiques. C'était une notion relativement récente qu'on s'attaque aujourd'hui, une notion récente mais réalité très ancienne. Priver quelqu'un de liberté par l'argent et en l'occurrence priver une femme de liberté. Retour en arrière. Jusqu'en 1965, c'était il y a seulement 60 ans, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir de compte en banque à son nom. Elle ne pouvait d'ailleurs pas travailler non plus sans l'autorisation de son mari. La femme était sous ce qu'on appelait incapacité civile. Arrive donc 1965, mais ça c'est pour la loi. Dans le secret des foyers, les mécanismes de domination économique perdurent.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ces symptômes?
Il y a l'empêchement, interdire à sa conjointe de travailler ou la forcer à démissionner, et puis le contrôle direct, confisquer son salaire, lui accorder un budget pour les dépenses du ménage, la faire se justifier de chaque centime dépensé. On parle de séquestration financière. Il y a aussi l'endettement, contracter des crédits en son nom, menacer de refuser une pension alimentaire, tout ça pour maintenir l'autre dans un état de dépendance totale et éventuellement l'empêcher de partir. Alors d'où ça sort la reconnaissance de la violence économique? Eh bien d'un long combat féministe, encore pas abouti, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Mine Gunbay, ces violences économiques, on a compris, elles ne sont pas du tout récentes, mais ce qui est nouveau, ce qui est récent, c'est la notion même de violence associée à l'économie comme ça.
Alors les violences économiques au sein du couple sont le terreau des violences. Hein, dans les années 70, déjà, notre fédération avait bien compris que si on voulait que les femmes puissent quitter le domicile d'un conjoint violent, il leur fallait un toit sur la tête. Et on ne peut pas avoir un toit sur la tête si on n'a pas les moyens de le payer. Donc c'est comme ça qu'ont émergé les premières structures d'hébergement pour femmes victimes de violences. Donc en réalité, c'est un sujet dont on s'approprie de plus en plus. Des partenaires nous aident effectivement à mieux faire connaître cette question, mais c'est une question, comme vous l'avez dit, qui est ancienne et qui est même le terreau des violences.
Et ce problème des violences économiques, il concerne à peu près combien de de femmes en France? Est-ce qu'on a une idée de ça, un chiffre?
Alors, nous, dans l'enquête qu'on a menée avec l'IFOP et le Crédit Mutuel, ça a concerné un échantillonnage suffisamment représentatif de plus de 1000 femmes. Ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres-là, ils viennent corroborer les mêmes qu'on a, nous, au 39-19, 100 000 appels par an au 39-19, 25% de femmes qui disent vivre des violences économiques. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qu'on a de part et d'autre disent la même chose. Les femmes sont victimes des violences économiques.
Est-ce qu'il y a un profil type des foyers dans lesquels on retrouve ce genre de situation?
Alors, on peut retrouver ça dans tous les foyers, mais on ne va pas retrouver les mêmes types de violences dans les foyers. Évidemment, une femme cadre CSP+, qui travaille et qui a effectivement un pouvoir d'action dans le quotidien, ce n'est pas la même chose qu'une femme qui est sans emploi et dans des difficultés administratives.
Évidemment. Mais elle peut en être victime aussi.
Absolument. Mais les deux peuvent être victimes de violences économiques et ça ne va pas prendre la même forme. Mais toutes les femmes peuvent, à un moment donné de leur vie, être victime de violences économiques conjugales.
Plus chez les jeunes, on sait ça, si c'est plus chez les jeunes ou chez des couples de personnes âgées?
Alors, la question toujours des statistiques, c'est les angles morts. C'est-à-dire que sur les personnes âgées, le fait qu'elles puissent non pas vivre des violences, mais le déclarer est compliqué. Par exemple, on a seulement 2% des appels de femmes de plus de 75 ans au 39-19.
Elles n'ont pas le réflexe d'appeler, quoi.
Ou pas la culture, ou en tout cas, elles n'ont pas bénéficié de cette montée en compétence de la société, de la vague MeToo. Donc, il y a aussi ces questions générationnelles, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'en vivent pas des violences économiques. On peut supposer, effectivement, que ces femmes vivent des violences économiques comme les plus jeunes. Parce qu'elles sont toutes dans un système patriarcal.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il était trop tôt pour faire une émission sur les violences automobiles, attendons déjà que Cyril soit officiellement condamné. Voilà pourquoi aujourd'hui on zoome plutôt sur la notion de violence économique. La directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Miné Gounbaï, est avec nous pour comprendre à quoi renvoie ce phénomène. Alors, je le disais, Miné, vous avez publié fin novembre une enquête sur ces violences économiques, et il y a des chiffres qui sont assez terrifiants pour les gens qui ne se sont jamais penchés là-dessus. Par exemple, les plus jeunes sont particulièrement confrontés à ce phénomène des violences économiques. C'est le cas de 37% des femmes de 18 à 35 ans qui ont déjà été en couple. Alors évidemment, c'est un échantillon, mais tout de même, c'est assez impressionnant, 37% des femmes.
Ce chiffre-là, il doit nous dire que la question de l'éducation financière dès le plus jeune âge doit également être faite, puisque quand on est dans des modèles de couple qui reposent sur la puissance de l'homme, qui reposent sur le chef de famille, quand on est encore dans ces représentations-là, il n'y a pas de raison que les jeunes ne soient pas autant impactés. Donc pour nous, ce qui nous importe aussi, c'est face à ces constats de mettre en place des actions d'éducation dès le plus jeune âge, l'éducation financière, pour comprendre les impacts aussi de la question du partage des ressources économiques au sein d'une relation, d'un couple, d'un foyer.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette violence économique au sein du couple? Parce que autant, je pense qu'il y a des exemples qui nous parlent à tous, un conjoint qui n'a pas de carte de crédit, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des choses peut-être plus insidieuses dont les gens ne se rendent pas compte au quotidien.
Absolument, ça peut être des choses qui s'installent progressivement, par exemple l'interdiction de travailler. Des femmes qui sont en relation de couple, elles travaillent, et puis progressivement, parmi les éléments coercitifs, il y a l'idée de l'éloigner du monde du travail. Donc ça, c'est un élément que l'extérieur peut voir, mais qui peut être justifié par l'arrivée d'un enfant, parce que monsieur a les moyens pour le couple, et donc c'est romantisé, et ça permet effectivement de mettre madame à distance du monde du travail. Ça peut être effectivement la limitation de l'accès au compte bancaire, donc à chaque fois qu'il faut payer quelque chose, de devoir demander l'autorisation. Ça peut aussi être le non-paiement des pensions alimentaires, hein, vous le disiez tout à l'heure, donc ça c'est en cas de séparation, parce que là on parle des violences économiques au sein du couple, mais il y a aussi au moment de la séparation.
Et tout ce qui suit ensuite, après quand il y a séparation.
Absolument. 30% des femmes disent que les violences durent au moins un an après la séparation. Et quand il y a des enfants, ça peut durer toute une vie parce qu'il faut courir après les pensions alimentaires. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Elles sont plus ou moins insidieuses. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les femmes et la société en manière générale pour alerter sur ce que c'est que ces violences économiques.
Quentin. Est-ce que ça peut être encore plus insidieux, c'est-à-dire faire comprendre que c'est l'homme qui ramène en gros le plus gros des sous à la maison, et de dire de toute façon c'est moi qui règle quasiment tout, donc t'as rien à dire, même sur la prise de décision en général, sur des vacances, sur des lieux de vacances, sur des achats de n'importe quoi, de chaussures, de fringues, est-ce qu'on fait culpabiliser l'autre ?
Absolument, ça c'est une des formes relativement banales. Monsieur gagne plus, hein. Globalement on est dans une société où les hommes gagnent plus que les femmes, donc c'est relativement courant. Ça peut prendre cette forme-là, mais ça peut prendre aussi la forme de dire 50-50, alors qu'en réalité madame gagne beaucoup moins. Et puis ça peut être aussi les choses que madame paye. Titou Lecoq avait fait de très beaux podcasts là-dessus, hein, où on montre que madame, elle va payer les courses, l'alimentaire, le quotidien, et puis tout ce qui est en dur, tout ce qui est patrimoine, c'est monsieur qui va le payer parce que les crédits sont trop importants. Et puis au moment de la séparation, madame se retrouve avec les pots de yaourt vides. Donc ça, c'est très important aussi d'éduquer financièrement à ce que ça veut dire que partager les ressources financières au sein d'un couple.
Vous parlez même d'emprisonnement. De nombreuses femmes expliquent qu'elles ne peuvent pas quitter leur conjoint violent, faute de ressources financières, de comptes bancaires personnels ou d'économie pour se loger, tout simplement. Est-ce que c'est reconnu dans le droit, cette violence économique au sein du couple ?
Non, c'est actuellement, les violences économiques conjugales ne sont pas reconnues dans la loi française. En revanche, dans le droit européen, de par la Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée en 2014, il est bien question que les violences domestiques peuvent aussi prendre la forme de violences économiques. Donc nous avons encore un travail à faire, un plaidoyer fort pour pousser, pour que ça puisse être une infraction qui puisse être mobilisée par les femmes pour pouvoir effectivement faire valoir leurs droits.
Et je pense aux femmes qui nous écoutent, qui se reconnaissent peut-être dans ce qu'on est en train de raconter. Donc il y a des solutions qui existent, des solutions juridiques, des solutions via vous par exemple. Comment ça se passe ?
Alors déjà, vous le disiez tout à l'heure, il faut permettre aux femmes d'identifier qu'elles vivent des violences économiques au sein du couple. Parfois, c'est même pas évident. C'est pas un terme qu'elles vont utiliser. Donc quand elles appellent le 3919, par exemple, les écoutantes, qui sont des professionnelles formées, vont pouvoir leur permettre de les accompagner à mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Donc si une dame dit, moi, j'ai plus accès au compte bancaire, on va pouvoir lui dire, mais ce que vous vivez là, madame, c'est une violence économique conjugale. Déjà, ça, c'est très important de nommer ce qu'on vit pour pouvoir agir dessus. Et ensuite, effectivement, il y a un certain nombre d'associations qui existent. Nous, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le Crédit Mutuel, on permet aux femmes qui sont dans des centres d'hébergement de notre réseau de pouvoir ouvrir un compte bancaire personnel et avec tous les outils qui vont gratuitement. Et c'est très important parce que c'est une première démarche vers l'autonomie financière pour certaines d'entre elles et de l'autonomisation financière. Donc il y a des actions qui existent, mais effectivement, il faut aussi pouvoir agir de manière plus macro.
On l'a si souvent répété, à tort, je m'en rends compte aujourd'hui, comme le pire d'entre nous.
Ah,
alors qu'en réalité, Quentin est un bon bougre.
Oui.
Vendredi, il est le seul dans l'équipe qui a choisi de ne pas partir en week-end anticipé pour me soutenir dans l'épreuve terrible que je traverse. Alors Quentin, je retire officiellement ce que je disais l'autre jour. Non, vous ne me fatiguez pas. Je ne me lasse jamais de vous écouter.
Voilà.
Et comme ça, tout à l'heure, vous me changerez mon pansement. Vous verrez, il y a du boulot. Mais en attendant, découvrons notre micro-trottoir. Ça sent toujours très bon. N'oubliez pas que je suis suisse. Les passants que vous avez arrêtés, ils ont tout de suite compris à quoi faisait référence cette notion de violence économique ou plus les passantes que les passants.
Mais on va voir. Je marche ce matin dans la ville, un mois de décembre qui passe des 3 degrés ressentis aux 15 affichés au thermomètre, alors que j'en suis presque à préciser que oui, il n'y a plus de saison, ma petite dame. C'est ici que je croise Jean-Louis, 81 ans, fringant. Il découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Violences économiques.
Vous avez raison de faire la liaison, parce qu'il y a des S.
Il y a des S, hein, violences économiques.
Je parle à Jean-Louis de cet angle mort des violences conjugales. Une femme sur 4 se dit en souffrir. 28% des femmes en couple disent même ne pas avoir de compte personnel. Et c'est un chiffre en hausse ces dernières années. Là, il voit de quoi nous parlons.
Arceau, ya, voilà, je comprends bien, oui. Je suis assez étonné parce que j'ai bien souvenir que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire. Bon, c'était dans les années 45 peut-être. Enfin, le droit de vote, il date de 45, hein, je crois bien, pour les femmes. Je suis étonné qu'effectivement, il y ait cette violence, puisque c'est le mot, économique qui pèse sur les femmes.
Mais alors, je lui demande comment lui, il a fait avec ça dans sa vie. Ça le fait sourire.
Bah oui, parce qu'il se trouve que ma femme, elle gagnait plus que moi. Elle a une meilleure retraite que moi. Bah, ce qu'on fait, on a un compte joint. Et on a des comptes perso aussi. Et le compte joint, bah, il est au prorata de nos revenus. Et je trouve que c'est une bonne méthode, il y en a d'autres. Et puis...
Ça n'a jamais posé de problème qu'elle gagne plus que vous ?
Non, écoutez, au contraire, c'est assez confortable, hein, parce que nous avons un joli petit appartement grâce à elle.
Voilà l'exemple qu'il fallait trouver. Ces deux jeunes femmes maintenant, Ava et Eva, qui réagissent au thème du jour qui nous intéresse.
Je pense que dans toute relation saine, on essaie de faire 50-50. Après, pas tout le monde est d'accord avec ça. Le fait de faire 50-50, ça permet à la femme d'avoir à la fois ses propres économies et à l'homme d'avoir les siennes.
Mais non,
Ouais.
Vas-y.
Parce que là, il y a égalité et équité. C'est-à-dire que si l'homme gagne plus, bah forcément le 50-50 il va pas être équitable. Enfin, dans un couple hétéro en tout cas, si l'homme gagne plus, ouais, c'est l'équité qu'on cherche.
De fait, avec ce 50-50, de récentes études montrent qu'en couple, la majorité des femmes s'appauvrissent et les hommes en ressortent encore gagnants. Je discute de cette violence économique, avec cette jeune femme, la tête emmitouflée dans une écharpe à carreaux verte. Elle a un exemple qui illustre ce qu'on dit.
Mes parents se sont séparés assez tard, enfin récemment quoi. Et ma mère m'a dit que quand elle avait annoncé à ses copines, en fait, il y a beaucoup de copine autour d'elle, donc entre 50 et 60 ans. Enfin, je sais pas, qui avait jamais vraiment parlé de ça et qui avait dit bah, en fait qu'elles avaient jamais quitté leur conjoint aussi à cause de ça, quoi. Enfin, que c'était vraiment une. Ça voudrait dire se séparer, en fait, renoncer aussi à un confort à un âge où bah, peut-être c'est un peu plus difficile aussi de bah, s'imaginer vivre dans un tout petit logement. Il y a une dépendance économique qui fait qu'on ne peut pas faire des choix en toute liberté, quoi.
Je convainc maintenant cette autre femme de bien vouloir me répondre, les cheveux grisonnants, la tête dans son smartphone. Elle comprend que j'ai un micro.
Ah non, faut que je parle. Ah oui, bonjour. Ah
bah, si vous ne parlez pas, là, okay. Ça n'a plus de sens.
Ok.
Quel est votre prénom ?
Sophie.
Vous avez quel âge, vous ?
51.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est quoi votre truc ?
Photographe.
On parle écart salarial et des violences économiques.
Alors... De base, j'avais un compte en commun avec mon mari, j'ai eu 3 enfants, j'ai été à la maison parce que je l'avais choisi, et après j'ai été à mon compte, donc j'ai eu mon compte perso, enfin perso, compte pro, et du coup effectivement ça donne une indépendance financière, qui n'est pas négligeable, mais...
Quand vous vous êtes rendu compte de ça, vous êtes dit « Ah !»
Ouais, « Ah !» Non, c'est vrai, c'est quelque chose qui est important, ouais.
Ma dernière rencontre, c'est Iris, longs cheveux châtains qui tombent sur une veste colorée flashy en moumoute. Elle découvre la notion qu'on décortique aujourd'hui.
Je connais bien le sujet.
Pourquoi ?
Par rapport à ma mère, qui a vécu plusieurs violences conjugales avec 3 partenaires différents. C'est un vrai problème, ça fait beaucoup de mal et faut une égalité salariale, sinon ça va continuer quoi.
Oui, parce que ce sera toujours biaisé par...
Bah oui, parce qu'en fait, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc, t'as la charge d'enfants en bas âge, ta charge à toi, plus tu te fais violenter, plus tu t'as pas assez de sous pour partir, du coup, bah, t'es bloqué, quoi.
Elle me confie hein, que ça fait mal de voir sa mère souffrir de ce piège. Comment elle s'est construite autour de ça ?
Pour moi, c'est primordial d'avoir mon indépendance financière, émotionnelle et tout ça pour justement pas me retrouver dans des schémas violents et de pouvoir partir quand je le veux. Ma sécurité, c'est de me dire que en fait, je gagne mon argent et mon argent m'appartient et donc si j'ai envie, je peux me casser quoi.
L'emprise économique est souvent la première étape avant d'autres formes de violence dans le couple et Iris le sait mieux que personne parce qu'avoir son propre argent, c'est pas un luxe. C'est aussi la clé de la porte si un jour, il faut l'ouvrir en urgence.
Merci Quentin. Mini Gounbay, on parle souvent d'emprise dans le couple. J'ai l'impression que là, avec ces violences économiques, on est au cœur de ce qui peut être la mécanique de l'emprise. C'est-à-dire qu'avec son argent, finalement, on enferme sa partenaire dans un couple duquel elle ne peut plus sortir, tout simplement.
Dans cette enquête que vous citiez, et les témoignages le prouvent bien, hein, 30% des femmes n'ont pas d'autres revenus que ceux de leur partenaire. 48% d'entre elles, dans cette même enquête, nous disent qu'elles ne pourraient pas quitter leur partenaire parce qu'elles n'auraient pas suffisamment de moyens. Et ça, dans les grandes villes, c'est encore plus accru. Et donc, je pense qu'il est vraiment important de travailler à des politiques publiques globales, parce que là, ce dont on est en train de parler, c'est la responsabilité des individus, c'est-à-dire de comment l'individu peut prendre sa responsabilité, ouvrir un compte bancaire, etc. Nous, la question qu'on pose aussi, c'est comment la société peut agir pour éviter qu'on se retrouve à devoir faire peser sur les personnes cela. La question, la dame qui dit avoir choisi d'arrêter de travailler pour élever ses 3 enfants, est-ce que quand on est dans une société égalitaire où il y a suffisamment de places en crèche, que ça ne coûte pas une fortune, et bien peut-être les femmes feraient d'autres choix. Est-ce que si, dès le plus jeune âge, on éduque à l'égalité entre les femmes et les hommes, ben peut-être on aurait d'autres constats. Peut-être que le 50-50, on le poserait autrement si on avait une analyse systémique des inégalités.
L'une des jeunes femmes interrogées par Quentin parlait du compte joint. Le compte joint, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut privilégier pour éviter justement ces violences économiques, ou ça les amplifie ?
Bah, en fait, avec la loi Rixin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait inscrire dans la loi le fait que les femmes devaient avoir, quand elles travaillent, que leur salaire ou les prestations devaient être versées un minimum sur un compte dont elles sont titulaires ou co-titulaires. Donc ça, c'est déjà une toute petite avancée qui permet effectivement d'être, de lever un obstacle sur les mécanismes d'emprise. Parce que effectivement, quand vous avez un compte joint, mais que vous n'avez aucune possibilité personnellement de manier les ressources du domicile ou de vos propres envies aussi, parce que les femmes ont aussi des choses qu'elles souhaitent peut-être s'acheter ou investir et qu'il faut tout le temps demander l'autorisation de son partenaire, et bien évidemment, ça restreint votre champ d'autonomie.
Et alors après, la question, c'est s'il y a conjoint, pourquoi pas, équité, 50-50, prorata, qu'est-ce qu'on choisit? C'est quoi la meilleure formule pour vous?
Ben, je trouve que c'est intéressant, votre premier témoignage de, Jean-Louis. De Jean-Louis, plus âgé, qui, ça lui va très bien de faire finalement 50-50 parce qu'il gagne moins que madame. Ça aurait été intéressant d'avoir des témoignages dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup d'hommes dire au resto, il faut faire 50-50. C'est un des trucs qu'ils ont retenu de la question de l'égalité entre
parfois,
les
ils ont retenu que ça.
Malheureusement, parfois, ça devient un argument un peu, voilà, cache la forêt. Oui, on peut se poser la question, mais quand on gagne 30-40% de plus que sa partenaire, est-ce que vraiment ce 50-50, il a toujours du sens? Après ça, c'est des choix personnels, c'est aussi des champs d'action individuels, mais moi, je pense que si on arrive à éduquer dès le plus jeune âge à cette éducation financière, à l'importance de l'autonomie financière des femmes qui passent par là, que l'émancipation des femmes passe aussi par le portefeuille, c'est le nerf de la guerre, et bien sans doute que les relations se construiront aussi autrement à l'âge adulte.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Rarement j'aurais été dans un état d'esprit aussi éloigné de celui qu'insufflait la célèbre série avec Bernard Ménez, Vivement lundi. Si vous connaissez ce générique, c'est vraiment super, mais ça veut dire aussi que vous nous écoutez depuis un EHPAD, en position horizontale. Jamais on s'ennuie le lundi, surtout quand on doit préparer comme moi un quiz rieur sur la notion hilarante des violences économiques dans le couple. Alors après avoir tapé sans conviction « anecdote drôle, violence économique » ou « violence économique insolite » sur Google, en vain, je suis passé au plan B, l'AAQ, l'arnaque au quiz, qui consiste donc à faire, selon les circonstances, un pas de côté, un bond de côté, voire une descente en tyrolienne vers l'incongru. Je vous laisse deviner le degré d'arnaque du jour avec ce quiz spécial Gender Gap, une des matrices des violences économiques. Et oui, d'où la pertinence de cet angle, vous le reconnaîtrez.
On remet la musique
dont, dont on l'a remet parce que je l'adore.
Dont on a déjà consacré une émission, le Gender
Gap. Oui, mais si vous réécoutez cette émission, vous verrez que le quiz n'était pas consacré au Gender Gap.
Très bien.
Histoire d'illustrer d'emblée ce qu'est le Gender Gap pour que Manon le ressente dans sa chair, je rappelle que Quentin démarre ce quiz avec 50 points d'avance, car pour la faire courte, c'est pas la Marianoche qui se serait souciée de ramener mon scooter au garage. Merci
pas
Quentin.
Conduire.
Et attention, top, première question toute fraîche. On la trouve dans le dernier rapport mondial sur l'écart entre les sexes, établi par le Forum économique mondial en 2025. Forum qui établit chaque année un indice d'inégalité, 100% étant la parité parfaite. Selon vous, laquelle des affirmations suivantes est donc vraie? L'indice mondial global est de 68,8%. C'est pas dingue. L'Islande est numéro 1 avec 92,6%. C'est impressionnant. Où la France est seulement 35e avec 76,5%. Pas de quoi fanfaronner.
Il y en a peut-être plusieurs. La BSC.
Les trois.
BSC.
Une fois de plus, l'intelligence féminine triomphe. Oh. Bravo, bonne réponse, Manon.
50 points vont vite redescendre.
50 à 1.
Ouais.
Les trois affirmations sont vraies. Trois statistiques extraites du dernier rapport mondial sur l'écart entre les sexes. Le pompon de l'égalité homme-femme revient donc à l'Islande pour des raisons culturelles assez complexes, mais qui n'ont en tout cas rien à voir avec le fait que les hommes auraient des petits zizi à cause du froid, comme l'explique Cyril en régie aux stagiaires. La France est donc seulement 35e de ce classement. Et encore, s'il savait combien est payé Pénélope, notre stagiaire, pour réaliser 70% du travail de Pierre Courade, on sombrerait encore plus bas dans le classement. Mais attention, comme disait Schopenhauer, au bout du tunnel, il y a la lumière. Une fois de plus, amis femmes, il ne faut pas trop vous faire de bile. Depuis quelques temps, le vent de l'histoire souffle dans votre dos. La preuve, en 2025, même Michel est presque féministe.
Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Par contre, qu'elles en fassent pas trop, quoi.
J'ai dit presque.
Il y a un moment où il va plus articuler.
Croyez-moi, c'est sûr.
Quand on passe pas ses musiques, on passe ses citations. Quoi,
C'est ses plus belles citations. Mais croyez-moi, les choses s'améliorent. D'après le dernier rapport du Forum économique mondial, il est formel ce rapport. Ouais. Si la tendance observée ces 10 dernières années se confirme, nous vivrons dans un monde parfaitement égalitaire. Quand Manon sera présidente directrice générale de Radio France, c'est-à-dire dans 37 ans. Quand Quentin rejoindra son idole Michel Delpech dans l'allée 78 du Père Lachaise, c'est-à-dire dans 63 ans, ou quand les enfants de Manon et Quentin rejoindront leurs parents dans le mausolée Zoom Zoom Zen du Père Lachaise, dans 123 ans.
C'est obligé.
Non mais Manon, L'égalité homme-femme avance quand même, si lentement.
Quand j'irai rejoindre Delpech, moi.
Delpech, oui, dans 63 ans. Moi, j'aurais répondu comme vous, Quentin, mais c'est une bonne réponse de Manon Mariani, hélas. Véritable trésor architectural que ce mausolée de Zoom Zoom Zen, bâti en 2112 par Dylan Guéry, le petit-fils de Franck. De même que les visiteurs du Père Lachaise viennent aujourd'hui toucher le relief au niveau du sexe de la statue sur la tombe de Victor Noir, les visiteurs du futur viendront toucher la raie de la Marianoche, parfaitement reproduite dans le marbre, qui promettra de la fécondité et joie sur 4 générations. En tout cas, voyez Manon...
Et joie, mais
réjouis,
oui. Content.
Si, Manon est joyeuse, parfois. En tout cas, voyez Manon, réjouissez-vous, plus que 123 ans à attendre pour que, à travail égal, vous soyez payé comme Quentin. Hélas, cette bonne nouvelle est un peu l'arbre qui cache la forêt du gender gap, car dans certains domaines, le rattrapage se fait très très lentement. D'après vous, parmi ces 3 domaines, quel est celui où le gender gap est le plus difficile à combler ? La représentativité des femmes en politique ? L'accès à l'éducation ou la santé, c'est-à-dire l'espérance de vie.
B, je dirais, l'éducation.
Si c'était un piège.
Vous savez, Quentin, je suis fatigué, je ne mets pas des pièges. Eh bien, c'était la réponse A, Quentin. Vous n'en mettez pas dedans, heureusement que vous avez 50 points d'avance. Réponse A, je ressors mon indice d'inégalité, 100% étant la parité parfaite. Eh bien, au niveau mondial, on est à 95% pour l'accès à l'éducation et 96% pour l'espérance de vie. Seulement 22,5% pour la représentativité des femmes en politique. Une statistique désespérante, peu compensée par le fait que Sarah Knafo est annoncée se lancer pour la présidentielle de 2027. Chères auditrices qui nous écoutez, je ne vois qu'un moyen de vous dédommager de cette mauvaise nouvelle. 10 secondes de Jean-Luc Ley.
Jean-Luc Ley, Michel Sardou.
Vous êtes bien sur France Inter. Vous entendez cette chanson, mesdames, je le sais, vous retrouvez foi en l'humanité et surtout en l'homme. Jean-Luc Ley, c'est l'antidote à la misandrie. Et pour finir ce quiz, voyageons un peu.
Coupez cette phrase.
Direction le seul pays du monde où les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais où elles ont beaucoup moins accès au marché du travail qu'eux. Un paradoxe unique et délicieux qu'on ne retrouve qu'au Qatar, ce merveilleux pays où des milliers d'ouvriers ne sont pas morts pour rien, c'était une belle coupe du monde. Le Brésil, ce pays de la honte qui a osé jeter en prison son ex-président, c'est pas chez nous qu'on verrait ça. Ou la Hongrie, ce pays qui a retrouvé sa grandeur et son rayonnement international grâce au génie de Viktor Orban.
Ah, c'est...
Quentin, vous penchez pour la réponse A.
En fait, c'est pas ça.
C'est d'autant plus fou que c'est une bonne réponse.
Mais non.
Votre première bonne réponse du quiz,
full
effectivement,
pif.
Au Qatar,
pif, ouais.
Alors que les femmes qataries sont plus diplômées que les hommes, seuls 60% ont accès au marché du travail. Large victoire, 51 à 2, bravo
c'est
Quentin,
fou.
Quel score inouï. Bravo Quentin.
Merci à tous.
Redorer le blason des hommes.
Bien que j'aurais dû gagner.
Quand les femmes sont étouffées financièrement au sein même de leur couple, zoom cet après-midi sur le phénomène des violences économiques avec la directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Miné Gounbaï. Miné, comment vous expliquez ce recul de l'autonomie bancaire des femmes dans un monde où la parole se libère, où on est passé quand même par MeToo, en ce moment, vous diriez qu'il y a plus de violences économiques qu'avant ?
Je dirais surtout qu'on est dans un contexte socio-économique compliqué et donc quand on est dans soit des politiques d'austérité, soit dans un recul du pouvoir d'achat des personnes, c'est souvent
c'est les femmes
les premières qui trinquent, puisqu'on est déjà dans une société inégalitaire structurellement. Évidemment, les premières victimes de cela, ce sont les femmes.
Il y a aussi une forme de retour du conservatisme dans notre société. Est-ce que ça c'est... on parlait de backlash féministe, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est en accord avec ça ?
Alors oui, sans doute, le fait de les tradwife, mouvement des États-Unis largement financé par des mouvements d'extrême droite, des femmes tradwife financées par l'extrême droite, déjà, le paradoxe est là, qui a vendu du rêve à plein de femmes sur l'idée en fait, qu'il faudrait un retour au foyer des femmes, mais c'est intéressant, c'est parfois porté par des femmes elles-mêmes, femmes politiques elles-mêmes, qui elles sont à l'extérieur, mais par contre qui promeuvent pour d'autres femmes de retourner à la maison. Oui, on entend ça dans le discours, et puis dans les collèges aussi, on a entendu un temps les femmes à la cuisine, en fait, de renvoyer les femmes à l'espace domestique et à l'espace privé. Ce qui prouve que la question du champ du domestique reste un enjeu politique fort.
On n'en a pas parlé, mais est-ce que la violence économique s'accompagne toujours d'une violence psychologique et d'une violence physique ?
Alors, tout à l'heure, on a parlé des 7 types de violences. Il faut savoir qu'au 39-19, les femmes vivent toujours un minimum 2 à 3 types de violences en même temps, c'est-à-dire dans la relation. Ça peut d'abord être des violences économiques, ensuite, ça peut être des violences verbales, ça peut être ensemble. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Les femmes vivent un cumul de violences et c'est pour ça qu'il faut agir de manière globale sur ces violences.
Tout à l'heure, en antenne, on discutait, vous m'avez parlé de l'arnaque patriarcale. Qu'est-ce que c'est l'arnaque patriarcale ?
En fait, même quand on obtient des droits et qu'on a réussi à obtenir l'émancipation des femmes par le travail, eh bien, les femmes ont continué à travailler 8 heures par jour comme les hommes. Mais à côté de ça, elles ont continué à assurer les tâches domestiques, la charge mentale, comme on l'appelle aujourd'hui. Elles doivent doivent en plus rester des épouses présentables avec tous les diktats sur le corps des femmes. Donc en fait, c'est un cumul de fonctions attendues par les femmes qui provoque de l'épuisement et qui provoque aussi des discours de « je choisis de rester à la maison ». En réalité, il y a là quelque chose autour de l'émancipation des femmes qu'il faut qu'on puisse rediscuter. L'égalité salariale, ça fait plus de 30 ans que c'est dans la loi, et pourtant 20% d'écart de salaire en moyenne à compétences et à travail égal.
Vous avez mentionné ce que vous faisiez avec le crédit mutuel pour donner un accès bancaire aux femmes. Est-ce que les banques ne devraient pas, alors pas les banques elles-mêmes j'imagine, mais disons que la législation sur les banques ne devrait pas les contraindre à être plus attentives à ce qui se passe sur les comptes des époux, peut-être en alimentant de manière plus harmonieuse les différents comptes et que les femmes disposent bien d'un compte à leur nom fourni régulièrement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Alors ça, c'est pour ça que je parlais d'éducation. Il faut éduquer les femmes à leur dire qu'elles doivent pouvoir réclamer que leurs prestations ou leur salaire soient versés sur un compte à elles ou au minimum co-titulaire. Mais encore une fois, je pense que c'est globalement repenser la place des femmes dans la société qu'il nous faut ouvrir. C'est-à-dire que cette question des violences économiques conjugales, elle nous permet de repenser la question de la place des femmes et des politiques publiques de la petite enfance, encore une fois des crèches, du champ des possibles dans le travail. On voit bien aujourd'hui, quand un métier se féminise, eh bien, les salaires baissent. vous citiez les métiers d'avocat tout à l'heure en antenne. C'est un métier qui s'est beaucoup féminisé. Bah, y a une paupérisation qui s'installe. Alors, paupérisation entre guillemets, mais en tout cas, les salaires sont moindres. Donc, c'est intéressant d'analyser tout ça à l'aune des violences économiques au sein du couple.
Vous demandez aussi au pouvoir public de modifier l'article 212 du Code civil. Est-ce que déjà, on peut rappeler ce que dit cet article et qu'est-ce que vous souhaitez y intégrer, vous ?
Sur la question du mariage,
oui.
En fait, l'idée pour nous au 25 novembre, et notamment dans le cadre de l'arrivée des municipales, ça a été d'interpeller les collectivités sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, dans cet article, au moment du mariage, on consent, et puis on...
Ce que prononce le maire.
Ce que prononce le maire au moment de l'exécution des vœux, et puis on se doit sécurité, amour, et nous on demande à ce que soit rajouté sans violence. Ça peut paraître évident, mais c'était aussi une manière de rappeler les collectivités à leurs responsabilités et comment les maires aussi peuvent agir là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de maires se sont saisis de cette proposition, à voir effectivement comment on va la faire monter un petit peu en puissance. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que chaque acteur et actrice dans la société puisse prendre sa part dans la lutte contre les violences. Et là, c'était de dire que les maires sont souvent un premier maillon aussi de sensibilisation et qui peuvent aussi jouer un rôle. Donc voilà, l'idée pour nous en tant que fédération, c'est d'aller partout où on peut agir et sensibiliser sur ces questions.
Et on rappelle le numéro, le 3919.
Le 3919 qui est une ligne d'écoute, d'information et d'orientation des femmes victimes de violences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible en 200 langues d'origine et pour les personnes sourdes et malentendantes.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une mini-série aujourd'hui, elle s'appelle Made. Elle est sortie en 2021 sur Netflix et elle est tout simplement bouleversante.
Avant de mordre, ils aboient.
C'est moi qui paye toutes les factures. Je t'ai laissé traîner avec tous mes potes. Je me suis déchiré pour toi.
Et avant de te cogner, ils cognent les murs.
La série est inspirée de la vraie histoire de l'écrivaine américaine Stephanie Lane, qui a écrit un livre du même nom. L'héroïne Alex est interprétée par Margaret Qualley. Sa mère, Andy McDowell, joue aussi sa mère dans la série. Mais si elle a autant fait parler, c'est surtout pour son histoire. Made suit le personnage d'Alex, 25 ans, qui vit avec son compagnon dans une caravane. Ils ont une petite fille de 4 ans. Alex n'a pas de travail, elle n'a pas fait d'études à cause de sa grossesse. Elle vit au crochet de son compagnon. C'est lui qui contrôle l'argent du foyer, la voiture, les dépenses, le logement. Jusqu'au moment où il va devenir violent. Alors il ne la frappe pas directement, pas encore, mais il commence à jeter des choses à côté d'elle, à son visage. Elle décide de partir avant que ce soit trop tard. Elle s'enfuit, elle réalise qu'elle a seulement 18 dollars en poche. Pas assez pour un hôtel, pas assez pour de l'essence, pas assez évidemment pour survivre. Elle se retrouve seule avec sa fille, sans logement, sans travail et sans famille pour l'aider. Sa mère est bipolaire et son père est inexistant. Elle trouve donc une place dans un refuge pour les femmes victimes de violences qui ont elles aussi fui leur foyer. Puis elle accepte un job de femme de ménage payée à l'heure pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle traverse des montagnes administratives insensées. Il faut une adresse pour avoir une aide, il faut une aide pour avoir une nounou, il faut une nounou pour travailler, il faut travailler pour avoir la garde de sa fille. Chaque épisode montre ce que vivent beaucoup de femmes, une spirale où l'argent n'est pas un outil, mais une chaîne qui tient le couple en place. Car on l'a dit, c'est aussi un levier de chantage. Made le montre bien, notamment lorsque son ex-compagnon engage un avocat pour obtenir la garde de leur fille. Alors, qu'elle ne peut pas s'en payer. Mais Alex va réussir à s'émanciper, à obtenir son premier appartement, faire ses premiers achats, devenir en fait indépendante. La série montre ses petits gestes banals du quotidien comme des victoires. Alex reprend le contrôle de sa vie. La série permet évidemment de comprendre à quel point les violences conjugales sont complexes, comment elles s'immiscent dans le quotidien sans forcément passer par les coups. Car malheureusement, l'histoire d'Alex fait écho à celle de millions de femmes aujourd'hui.
Merci beaucoup Manon d'avoir choisi cette série, Meaning Goodbye. La représentation des violences économiques dans les séries, c'est nouveau, ça c'est bien, c'est une bonne chose quand même que ça soit représenté.
Alors je pense que oui, la nouvelle génération va pouvoir aussi faire une partie de son éducation à travers des séries engagées. Et ce que vous venez de citer là me fait dire quand même qu'il faut saluer le travail des associations sur le terrain. Ouais. Actuellement, les associations vivent des difficultés financières majeures. Il faut savoir que si les femmes sont en capacité d'être accompagnées dans ce parcours de la combattante que cette série décrit très très bien, c'est parce que des associations en territoire, notre réseau, mais plein d'autres associations aussi, font ce travail et que c'est important de les soutenir.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est une chronique dont on imagine mal l'intensité en plateau. Car Pierre Courade effectue chaque après-midi cette chronique devant son pire ennemi, Quentin, lui. Longtemps en compétition pour le titre de personne la plus petite de Zoom Zoom Zen, c'est finalement Pierre qui l'avait emporté de 3 cm.
Oh
mais depuis, ils ont continué d'échanger des amabilités sur le groupe WhatsApp de l'émission. La semaine dernière, à l'issue de la publication sur Insta de photos de nous enfants, Quentin s'est ainsi fendu d'un désopilant montage juxtaposant la photo de Pierre enfant et celle du petit Émile, disparu en 2022.
C'était honteux.
Je vois qu'on ne partage pas le même humour, avait rétorqué Pierre. Ce à quoi Quentin avait répondu quasiment du tac au tac, puisque 45 minutes plus tard, pour pouvoir le partager, il faudrait déjà avoir de l'humour. Pierre, par pitié, ne lui répondez pas. On va s'arrêter là. Concentrez-vous sur votre mission. Nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur les violences économiques en une minute chrono.
Et aujourd'hui, effectivement, on a parlé des violences économiques avec Mine Gunbay, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Les violences économiques font partie des 7 formes de violences conjugales, au même titre que les violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s'agit pour les hommes d'avoir la main mise sur les finances de leur femme. Une femme en couple sur 4 subit une violence économique. Ça peut se manifester par une perte de compte bancaire personnel, un regard inquisiteur sur les dépenses, un retrait du monde du travail. Quoi qu'il arrive, pour notre invité, les violences économiques, c'est le terreau de toutes les violences conjugales. Sans argent, une femme ne peut pas quitter un homme violent sans risquer de se trouver à la rue. Les femmes sont piégées, enfermées, d'autant plus facilement qu'en moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes et que l'éducation financière n'est pas assez développée. Malheureusement, ces violences économiques au sein du couple ne sont pas encore reconnues juridiquement. Pour pallier ce problème, des associations, comme celle de notre invité, et des banques proposent des solutions pour que les femmes puissent acquérir plus d'autonomie financière et ainsi plus de liberté. D'ici là, le 3919, c'est le numéro d'appel mis à la disposition des femmes victimes de toute forme de violence.
Merci Pierre. Le 3919, vous l'aurez noté. Marine, vous avez mis du temps, je crois, à comprendre notre sujet du jour.
Ah oui, quand on m'a dit violence économique, j'ai d'abord cru qu'on allait enfin dédier l'intégralité de l'émission au fait que le café est payant. Non, je ne lâcherai jamais ce combat, pardon. Le pauvre
combat.
Pierre a calculé que s'il prenait 2 cafés plus le prix de son pass Navigo, il bossait gratuitement. Après, c'est sans compter les services tarifés qu'il propose à certains membres de l'équipe. Hein. Ah non, allez, j'arrête. Les gens vont y croire alors que tout le monde sait que Cyril refuse de payer pour ça, par faute de lui avoir répété que j'ai PayPal. Quand on regarde les violences économiques faites aux femmes, on comprend qu'il y a par exemple l'abandon du compte personnel au profit du compte commun. Alors nous, à la maison, c'est l'inverse. Hein. Ouais, l'argent, c'est moi. Je rappelle que je remplis des zéniths à défaut de vider mon mari. c'est vrai que...
Mais c'est pas possible.
Et c'est vrai en plus. C'est vrai que dans le couple, c'est plus compliqué de se barrer sans les codes de la carte bleue. Après, moi, il a le code. C'est juste qu'il ne le retient pas. Je lui ai dit, c'est ma date d'anniversaire. Ça fait 10 ans qu'il n'ose pas m'avouer qu'il ne la connaît pas. Et vu que je n'ai pas de page Wikipédia, je te rappelle, Cyril, que c'était quand même le deal. Quand je parlais de paiement en nature, c'était que tu me crées ma page Wikipédia, mais il n'y a pas de souci. Mais bon, vu les cadeaux que mon mari m'offre à Noël, vraiment, je ne perds rien. La dernière fois, il a utilisé le compte commun pour m'acheter un steamer rétractable. Il y a 2 mois, je l'ai confondu avec mon vibromasseur. Ah bah, je peux vous dire que j'ai plus un pli en bas et c'était pas gagné.
Non.
Ah oui. Ah bah, après 2 grossesses, franchement, je recommande. 30%, c'est imagé. Hein, c'est...
Oui, c'est vrai.
Ouais, ouais. 30%, tu feras un photomontage, Quentin. Avec le petit ami. Allez, 30% des femmes ne disposent pas d'autres ressources que celles de leur conjoint, ce qui peut être très violent. Et ce, même si le mec est riche et t'offre des sacs Chanel. J'en parlais la dernière fois avec la meuf de Quentin. Sauf qu'en plus, elle se fait offrir des sacs Cabaya. Enfin, c'est très dur. Tu m'étonnes qu'elle veut garder son indépendance financière, bichette. Je peux vous dire que moi, je l'ai fait. Hein, le pied de grue à la sortie de Goldman Sachs il y a 10 ans pour choper un mari riche. Ah ouais, ça, je l'ai fait. Je pensais que ça résoudrait tous mes problèmes. Mais une fois que les banquiers dînaient à la maison, ils étaient là. Ouais, il n'y a rien à bouffer. Ils parlaient de mes seins, bien entendu. Il y en a un qui m'a dit ça a la taille du caviar, mais pas le goût. Voilà. Après, son slip sentait la rillette. Donc, bon. Même consistance en bouche. Hein. C'est la théorie du pot de yaourt. Pardon, je ne parle plus de liquide séminal ici. La théorie du pot de yaourt, c'est que ce sont les femmes qui achètent pour le foyer des produits périssables pendant que les hommes utilisent leur argent pour la maison, la télé, le mobilier. Résultat, quand tu te sépares, tu repars avec tes pots de yaourt et ton mari avec un patrimoine et la bagnole. Après, quand je vois la déco que mon mari a achetée pour l'appart, franchement, c'est moi qui demanderai au juge qu'il reparte avec. C'est catastrophique. Et aussi avec la cadjar blanche, mon Dieu, quelle horreur. À ça de me faire larguer pour que ce truc dégage avec mon mari. Mais bon, attendez, quand je vois les nanas à Paris qui se font trimballer à l'arrière du vélo cargo de leur mec, je me dis que ça pourrait être pire. Non mais la pauvre Marianoche, elle a le cul carré et les oreilles décollées à force de se prendre le vent pleine poire. Quel enfer.
C'est toi, ça.
Oui, ça, c'est vrai. Pas pour rien qu'elle porte un casque de radio toute la journée, bichette. Mon mari récemment m'a dit, non mais véridique, hein, ça me dirait bien d'être ébéniste, t'en penses quoi ? Il s'est dit déjà que je gagne pas un rond et si en plus je construisais le meuble de la télé. Je lui ai répondu, bah comme ça il y en aura moi, au moins un de nous deux qui pourra tailler des grosses bûches. Oh. Allez, je vous laisse. Faut que je passe chercher mes filles à l'école et quelques yaourts au passage.
Vos filles qui vous écoutent évidemment, on les embrasse. Merci Marine Lenardi, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et bien sûr à l'Olympia du 10 au 13 décembre. Mais pas cette semaine, en 2026.
Ça sera, hein, attention, oui, bien sûr.
Mais il faut s'y prendre à l'avance avec vous parce que tout est plein très longtemps à l'avance. Merci.
Tout est plein, sauf moi.
Oui, bon, bah ça va. Merci beaucoup, Mine Gounbaï, de nous avoir expliqué les enjeux des violences économiques dans le couple. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et je rappelle, le plus important, c'est le numéro qu'on peut appeler si on se sent victime des violences qu'on a décrites cet après-midi pour avoir une réponse, une aide. C'est le 3919. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Zoom, zoom, zen.